De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette émission Cinérama, et bien de la variété dans le cinéma. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors un film soudanais.
Tout à fait. Alors moi, pour ma part, ce sera deux histoires tragiques. Donc un film soudanais, en effet, qui s'appelle Tu mourras à 20 ans, et un film américain qui s'appelle Queen Slim.
Et puis toi aussi,
deux films américains, du coup, Mickey and the Bears, et puis je vous parlerai d'une reprise, le classique La folle ingénue de Lubitsch.
Et là, on remontera dans les années 40.
46, exactement.
46, oui. Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers. Ce sera le gros plan de cette émission, parce qu'on a eu le plaisir de rencontrer Stéphane Desmoustiers, qui a abondamment parlé de son film, donc eh bien, vous l'écouterez abondamment dans cette émission. Mais on débute avec Queen Slim, un contrôle de police qui dégénère entre un couple noir et un policier blanc.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Tu es un homme noir qui a tué un flic et qui a volé son arme.
Je suis pas un criminel.
T'en es devenu un aujourd'hui.
Voilà comment un rendez-vous Tinder peut très très mal tourner. N'allez pas sur cette application, ça peut être dangereux. Nous sommes dans l'Ohio, un état où règnent encore de nos jours quelques tensions entre les noirs et les blancs. Slim a rendez-vous avec une jeune femme, c'est un rendez-vous galant que l'on ne peut pas qualifier de mémorable. Hein. Le courant passe assez moyennement entre eux, mais sur le chemin du retour, eh bien, la soirée va prendre une tournure imprévue. Un policier les arrête sans motif valable, il est blanc, ils sont noirs. La situation s'envenime, un coup de feu part, et en état de légitime défense, Slim lui tire dessus et là-bas.
Je peux te poser une question? Pourquoi ça t'a pris une plombe pour me répondre?
J'avais pas envie d'être seule, pas ce soir.
Du coup, t'es allé sur Tinder. Qu'est-ce qui t'a plu chez moi?
J'ai adoré ta photo. Il y avait de la tristesse sur ton visage et de la peine pour toi.
Super.
T'as créé une playlist? C'est trop mignon.
Fouille pas mon téléphone. C'est quoi le plan ce soir?
Tu me déposes et après tu rentres chez toi dormir?
Hein?
Quoi? T'as cru que t'allais coucher avec moi?
Non. Yeah. Non, tu rigoles. Non.
Vous avez pas mis le clignotant tout à l'heure?
Oh, autant pour moi.
Sortez du véhicule.
Je peux savoir pourquoi?
Non, vous pouvez pas. Les mains sur la tête et mettez-vous à genoux.
Vous êtes sérieux?
Fous-toi à genoux!
Pourquoi vous l'arrêtez?
Retournez dans la voiture!
Je suis avocat!
Francis, calme-toi!
Je vais prendre mon téléphone!
Et tout ça pour un clignotant.
Eh oui, tout ça pour un clignotant. C'est comme ça que ça se passe malheureusement assez souvent apparemment aux États-Unis quand on est noir. Les deux jeunes gens s'enfuient et ne tardent pas à découvrir qu'ils ont été filmés et que tout le pays est à leur recherche. Dans des États-Unis encore ouvertement racistes, ils deviennent des symboles de lutte. Et tandis qu'ils fuient pour tenter d'échapper à la justice ou plutôt à l'injustice, c'est tout le pays qui va s'embraser avec eux.
Il faut qu'on s'en aille, tout de suite. C'est dans tous les journaux.
Je soutiens votre action.
C'était de la légitime défense.
Le pouvoir au peuple.
987, deux jeunes suspects.
Eh, ce serait pas nous Bonnie and Clyde noirs.
Comment vous allez semer la police?
On va se fondre dans le décor.
Tant que ma belle me garde dans son cœur, moi ça me va.
Merci pour ce voyage. Peu importe la fin.
Melina Matsoukas, la réalisatrice du film, était jusqu'ici connue pour sa longue carrière dans le clip. Elle a notamment réalisé plusieurs clips de Rihanna et de Beyoncé. Passer au long métrage était donc un défi de taille qu'elle relève haut la main. Queen Slim, c'est l'une des grosses réussites pour moi de ce début d'année. Alors attention, que les gens blasés ou aigris passent leur chemin. C'est un film romanesque, romantique, engagé. Il est souvent péjoratif de dire d'une mise en scène qu'elle est clipesque. Eh bien ici, ce serait plutôt un atout. Le film n'est pas un long clip vide de sens. Non, c'est plutôt une succession de très belles scènes dans lesquelles la musique est souvent prépondérante et dans lesquelles elle sert toujours le propos. Elle sert à accompagner la narration et non à souligner l'émotion, à surligner l'émotion ou à masquer une mise en scène indigente. La réalisatrice ne cède pas à la tentation du ralenti facile, à l'envie de faire de jolies images. Ces images ont du sens, le choix des musiques aussi. D'ailleurs, elles accompagnent les différents changements de ton du film, car on passe ici du drame social à la romance. C'est dans la fuite que les deux personnages vont finalement tomber amoureux, ou encore au road movie.
Je veux juste rentrer chez moi. Et je veux voir ma famille.
Si tu te rends maintenant à la police, tu ne les reverras plus jamais. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant. Il n'y a plus rien pour nous ici. S'il te plaît, allez. On doit reprendre la route.
Alors on pense bien sûr à Bonnie and Clyde hein, ou à Thelma et Louise, mais Thelma et Louise faisaient face ensemble à l'oppression masculine. Ici, Queen et Slim deviennent les symboles malgré eux de l'injustice sociale, encore omniprésente aux États-Unis. S'il ne s'était agi que d'une cavale romantique ou d'un thriller, le film aurait sans doute semblé un peu superficiel, mais il se double d'un sous-texte politique. On pense à The Hate U Give, sorti il y a un an sur le même thème, les violences policières contre les personnes noires, qui lui, en revanche, était assez raté car très didactique et trop bien pensant. Le sujet du racisme ici reste constamment en filigrane, sans que l'on tombe jamais dans le pathos ou dans la démonstration. C'est un film puissant, intense, dans lequel le plaisir de la mise en scène est palpable. C'est un premier film très réussi donc pour Melina Matsoukas. Et j'ai pas cité le nom des comédiens. Notamment, il y a Daniel Kaluuya qu'on a vu dans Get Out.
Queen and Slim, donc premier film réussi, premier film américain en salle depuis le 12 février, comme un autre film américain, alors celui-ci indépendant, un peu plus indépendant, c'est le récit d'apprentissage d'une jeune fille dans une petite ville des États-Unis, fortement masculine, c'est Mickey and the Bear.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et c'est aussi un premier film, par ailleurs. Allez. Oui. Alors, Mickey est une adolescente qui a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran de la guerre d'Irak, accro aux opiacés, et pour corser le tout, bah, alcoolique. Alors, l'ours, hein, c'est lui, hein, cet homme imbuvable, violent et dépressif, qui passe ses journées devant la télévision. Traumatisé par le combat et aussi par la disparition de sa femme, hein, morte d'un cancer, il se complète dans sa situation de loser éternel, un personnage limite, souvent agaçant, mais que Anastasia s'évertue pourtant à ne pas trop charger, le présentant non pas comme un bon père, mais un type largué qui aime sa fille. Un peu trop, cela dit, comme en témoigne alors une séquence où, défoncé, il la confond avec sa femme. Bon, je n'en dirai pas plus, mais le spectateur comprend très vite le désir de Mickey de quitter le foyer, même s'il est écrasé par la responsabilité. Derrière ce choix cornélien, la jeune réalisatrice questionne la place de la femme dans la société patriarcale au cœur de l'Amérique profonde. Alors, les figures de la virilité sont mises à mal dans ce teen movie assez pesant, très dans l'air du temps et représentatif d'une certaine idée que se font les producteurs, on va dire, du cinéma indépendant américain contemporain. En miroir du père, le petit copain de Mickey agit de la même manière, subtilisant sa drogue, se comportant comme un phallocrate de première, au milieu de cet environnement étouffant, caricature un peu stéréotypée de mâle testostéroné, Mickey se bat, aspire à une autre vie, mais culpabilise de devoir laisser son père seul, qui pourtant ne mérite que ça. Alors pour survivre, elle travaille chez un taxidermiste dès qu'elle sort du lycée. Alors, joyeux programme en perspective.
Ouais.
Ouais, c'est là qu'elle s'éclate en fait.
Je vais empailler des renards.
Elle va rencontrer quand même un jeune homme, alors Aaron, antithèse de ce que représente la masculinité à ses yeux. Alors il est doux, aimant, poète et musicien. Alors cette manière un peu de dissocier deux types d'hommes sans aucune ambiguïté dessert le propos féministe et installe le film dans un programme où l'enjeu se résume à peu de choses pour Mickey, rester dans cette bourgade et mourir. Ou partir et vivre. Alors tout le film s'articule autour de ce faux dilemme, hein. On comprend très bien les relations familiales qui unissent les personnages. Cela dit, on n'attend qu'une chose au bout de 5 minutes du film, qu'elle se casse, qu'elle se tire vraiment de ce trou perdu, loin de ce père pathétique qui se cache derrière les pires excuses pour devenir un monstre d'inhumanité blessé, mais un monstre quand même. Alors l'agacement prend même le dessus derrière l'argument léger d'un scénario programmatique en dépit de son épilogue ouvert. Alors Annabelle Attanasio livre un film honnête, hein, objectivement inattaquable, hein. Coche toutes les cases. Sa mise en scène épurée et pudique colle au sujet. Elle parvient surtout à capter l'atmosphère de cette Americana, alors loin de l'agitation citadine, sans pour autant décrire un trou perdu de bouseux. Les longs plans fixes sur les mobilhomes ou les commerces déserts et ceux rapprochés sur les visages meurtris des comédiens en disent plus long que bien des discours. Alors une authenticité, quasi documentaire, se dégage de ces moments suspendus. Alors évocation réussie que l'on retrouve dans certains documentaires sur les rednecks notamment. Je pensais à un film qui s'appelait The Other Side, qui est remarquable. Alors en revanche, quand le film se met à disserter, il devient plus conventionnel, hein, déployant tout l'arsenal identifiable du cinéma indépendant, teinté de psychologie et de trauma à la clé. Mais la réussite mineure et fragile de cette chronique familiale désenchantée tient essentiellement à l'interprétation exceptionnelle de Camilla Morone, une révélation, hein, qu'on risque certainement de la retrouver.
Et notamment. Qui est donc la copine de DiCaprio.
Voilà.
Le moment potent.
Ah oui, mais elle est jeune, j'ai presque envie de dire. Mais...
Bah, comme toutes ses copines, en fait. Hein, et vraiment, il n'a jamais dépassé 20 ans. Hein.
Mais je crois qu'elle a 22 ans. En plus, elle joue le rôle d'une lycéenne. Donc, dans le film, elle est censée avoir 17-18 ans.
Ah, mais elle est très crédible dans ce rôle-là. Et on quitte les premiers films, mais on quitte pas la jeunesse en revanche, et non plus la famille d'ailleurs, c'est au travers d'un procès d'assises pour La fille au bracelet, film de Stéphane Desmoustiers.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Le film judiciaire n'est pas un genre très soutenu par le cinéma français, même si l'on peut citer quelques exemples récents. En février de l'année dernière est sortie Une intime conviction, que Marine, eh bien, tu avais beaucoup apprécié. Film d'Antoine Rimbaud qui traitait du procès de Jacques Viguier, accusé d'avoir tué son épouse, c'était à Toulouse. Hein. Dans un autre registre, on peut également citer L'enquête en 2015, qui suivait les démêlés judiciaires du journaliste Denis Robert avec la société bancaire Clearstream. Toutefois, le cinéma français est moins enclin que le cinéma américain, par exemple, à prendre une affaire pour en faire un film, qui d'ailleurs en faire eh bien, une vraie fiction. Alors, en ce début d'année, il faudra faire avec La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers, précisément le frère de l'actrice Anaïs Desmoustiers, qui l'a d'ailleurs débauché hein, pour ce film, lui faisant interpréter le pire rôle dans un procès, en fait, celui de l'avocat général. La fille au bracelet du titre, c'est Lise qui a 18 ans et qui, depuis maintenant eh bien, 2 ans, porte un bracelet électronique, car la jeune fille est accusée d'avoir tué sa meilleure amie à l'issue d'une fête. Alors, il n'y a pas d'autre suspect qu'elle, ce qui complique évidemment sa défense devant un tribunal d'assises. Ce qui n'arrange pas les affaires de Lise, eh bien, c'est qu'elle ne semble pas jouer la meilleure des parties devant les jurés, préférant parfois le mutisme, le silence à l'explication. Est-elle coupable ? On n'en saura jamais rien, c'est toute la finesse de ce film qui s'attache à un autre sujet. Alors d'une part, même si nous suivons un procès d'assises et si nous en voyons tous les mécanismes, à aucun moment nous ne verrons les jurés qui resteront hors champ. Comme pour signifier que les jurés eh bien, seront aussi les spectateurs. Car à coup de déclarations, de révélations, de non-dits, le spectateur n'en sait pas plus que les jurés qui assistent au procès. Toutefois, on en sait quand même un petit peu plus sur la famille, une famille qui ne sera que trop rarement réunie dans la même image. La mise en scène nous fait épouser son point de vue. Alors le père Roche Dizem est aux côtés de sa fille, la soutient jusqu'à l'étouffer de ses injonctions. La mère, quant à elle, refuse de suivre le procès. Reste le petit frère qui rêve d'occuper la chambre de sa sœur si celle-ci part en prison. Il est mignon. Oui, oui. Alors, ce que met en scène également Stéphane Desmoustiers, c'est l'écart entre les codes d'une jeunesse et ceux qui doivent juger, puisqu'il est question de tout déballer hein, lors d'un procès. Les parents, les proches ont l'occasion d'apprendre des choses insoupçonnées. Alors, le réalisateur va toujours jouer sur cette représentation de la jeunesse qui se frotte, alors sûrement pas à son avantage, à la morale des jurés qui doivent rendre justice. On voit ainsi comment la jeune avocate générale, donc interprétée par la frêle Anaïs Desmoustiers, insiste sur la moralité, sur la sexualité supposée déviante de l'accusé, au risque d'être réactionnaire ou de donner du crédit à une société patriarcale. Il ressort donc de La fille au bracelet, dont la mise en scène est limpide hein, entre procès et moments familiaux, non seulement une belle exposition d'un procès d'assises avec son unique suspect, mais aussi le portrait d'une jeunesse et l'attitude des parents confrontés à des enfants qui deviennent des êtres ben, finalement qui leur échappent. On va écouter assez longuement quand même Stéphane Desmoustiers qu'on a pu rencontrer. Il est au micro de Cinérama.
Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant, type couteau de cuisine.
Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ?
On était amis, meilleurs amis.
Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour ?
C'est bien ça.
Moi, quand j'écris le film, j'avais l'idée d'être dans la position des parents. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'on était un peu plus que ça et qu'on devenait soi-même juré. D'ailleurs, il n'y a pas de plan. Les fameux plans, un peu passage obligé sur les jurés qu'il y a toujours dans les films d'assises. Là, ils n'existent pas parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais plus le film avance, plus le procès prend de l'ampleur et plus le spectateur devient un juré. Devient plus que simplement un proche de cette jeune fille. Donc c'est les deux à la fois.
Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise ?
Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être.
Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas ?
En racontant un procès, je pouvais raconter vraiment la vie de cette famille et est-ce que oui ou non, cette fameuse question, est-ce que oui ou non on connaît ses enfants ? Je me disais, ouais. Cette affaire, elle permet de vraiment mettre le doigt sur cette question puisque en procès d'assises, bah, on découvre ses proches par la force des choses. Sous un jour qu'on ne connaissait pas forcément. Donc je me disais, là, voilà, c'est une arène idéale pour parler de la famille, pour parler des... Est-ce que des générations se comprennent ? Mais après, le genre, c'est une béquille formidable, parce qu'un procès, c'est un suspense. Il y a l'attente, le témoignage qui va suivre, la déposition qui va suivre, et puis bien sûr le verdict. Ça crée une tension, ça structure nécessairement le film, et moi, je pouvais m'appuyer là-dessus. Après... Je ne sais pas si c'est une grande originalité, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était de respecter le fait que quand on assiste à un procès d'assises dans lequel il n'y a pas de preuves irréfutables, le doute existe toujours. Et je ne voulais jamais que le cinéma ait un temps d'avance sur la réalité du procès. Donc je ne voulais pas, moi, avoir un savoir surplombant sur l'affaire, un savoir omniscient. Et je me suis appliqué à moi-même le doute. Et j'ai mis le spectateur dans la situation d'éprouver ce doute, parce que je pense que le rapport au sien, le rapport à ceux qu'on aime, c'est aussi un rapport qui, où le doute existe et où on doit l'accepter.
Vous savez qu'elle a eu plein de copains ?
Je sais qu'elle en a eu, ouais.
Non, mais vraiment plein.
On a tous commencé au lycée, non ?
Je savais qu'elle était ouverte, j'avais des copains qui avaient déjà fait des choses avec elle.
Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation.
Tout le monde parlait de Lise comme d'une fille pas bien après, comme d'une salope en fait.
C'est le portrait d'une jeune fille de 17-18 ans. Et c'est ce portrait qui est dressé en creux, mais c'est ça moi qui me motivait quand j'ai fait le film, c'est-à-dire c'est l'altérité absolue, c'est une femme et elle est jeune. Et elle est à un âge où on échappe. Alors après, il y a plusieurs manières d'échapper. Et l'une d'entre elles, ça peut être le silence, mais... C'est un film sur l'interprétation. On passe son temps à essayer d'interpréter ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle fait, ce qu'elle n'a pas fait. Et je pense que ces silences, ils sont également sujets à interprétation. Un procès d'assises, chacun joue son rôle. Et elle, c'est comme si elle refusait de jouer le sien. C'est-à-dire, elle ne se conforme pas à l'attitude qu'on voudrait qu'une accusée ait. Et ça, je trouve que ça tient à une forme d'indépendance ou de sauvagerie qui va très bien avec l'adolescence. Donc, tous les adolescents ne sont pas mutiques, mais certains le sont. En tout cas, cette opacité, je pense qu'elle caractérise assez bien l'adolescence. Et je trouvais que, par le silence, on touchait à ça.
Mademoiselle, qu'avez-vous ressenti lorsque Flora Dufour s'est mise en couple avec Nathan Meurin ?
Rien. Enfin, j'étais contente pour elle.
Mais le fait qu'il devienne potentiellement l'ami de Flora n'avait aucune incidence sur votre désir pour lui ?
Non. D'ailleurs, à cette époque, je voyais d'autres garçons, j'ai jamais focalisé sur Nathan.
Mais vous éprouviez des sentiments pour Nathan Meurin ?
Non.
Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation ?
Non, aucun.
Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile ?
Comment ça ? Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi ? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Si j'avais su que ça posait un problème à Flora, on l'aurait jamais fait. Mais sur le moment, on ne pouvait pas le deviner.
J'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas un film qui dénonce une génération aux dépens d'une autre ou qui donne raison à l'une contre l'autre. J'ai essayé de montrer que chacun a ses modes de fonctionnement, que la cohabitation elle est parfois complexe ou difficile. Mais ce n'est surtout pas un procès qui est fait à une génération contre l'autre. Et d'ailleurs, je pense qu'à chaque génération, on s'est dit que celle d'après, c'était la catastrophe. Et je pense qu'à chaque fois, on retombe sur ses pieds. Donc je pense que les ressorts humains qui sont en jeu, c'est toujours les mêmes. Et je ne pense pas que la génération des plus jeunes soit différente de la mienne quand j'avais le même âge. En revanche, la différence, et ça le film en rend compte, mais ils partagent ce constat, c'est qu'eux, ils ont les réseaux sociaux, ils ont d'autres médias, et que ça peut induire une violence que nous, on ne connaissait pas.
Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux ?
Oui.
Et vous constatez, comme moi, qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge ?
Je sais pas.
On va parler peut-être du plus mauvais rôle, celui du procureur général, parce que c'est forcément lui qui accuse. Et celui-ci, vous l'avez donné donc à votre sœur.
Ouais, alors j'avais pas du tout écrit le rôle pour Anaïs, j'avais écrit le rôle pour... un homme d'une soixantaine d'années avec des cheveux gris. Je m'étais dit quelqu'un qui aurait la prestance de la fonction. Puis c'est en allant assister à des procès d'assises que j'ai vu que c'était quasiment systématiquement, en tout cas à Bobigny, des jeunes femmes qui étaient avocats générales, la trentaine, parfois moins. Donc on m'a expliqué qu'il y avait une crise de la profession et que c'était souvent des substituts qui étaient comme ça propulsés avocats générales. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un film qui raconte des générations qui ont du mal à se comprendre, mais je voulais montrer que c'était plus complexe que ça, que ça tient aussi à la position qu'on occupe dans la société, etc. Et je trouvais intéressant que ce soit une femme, et en plus jeune, qui soit celle qui porte ce discours moraliste un peu réactionnaire, comme si elle avait intégré un discours dominant, un discours masculin aussi. Et après, Anaïs, elle n'avait jamais joué de rôle comme ça, agressif, enfin agressif sous proportion gardée, mais quand même d'un personnage qui est ambitieux, qui est prêt à tout pour y arriver. Mais Anaïs, elle l'avait pas fait. Elle avait toujours joué des rôles plus mutins, plus solaires, etc. Donc il y avait un défi pour elle, et moi, ça m'autorisait du coup à aller lui proposer le rôle, parce qu'évidemment, c'est ma sœur, donc je savais qu'elle risquait de dire oui. Je voulais la mettre à la même enseigne que quand je vais voir Roche Dizem, c'est-à-dire que je vais la voir parce que je pense que j'ai quelque chose à lui proposer qu'elle n'a pas forcément fait. Roche Dizem, c'était pareil.
Le fait que Lise a été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse.
Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime.
Que savons-nous des adolescents de 16 ans ? Que savons-nous de leurs amitiés ? De leurs amours ?
Jules, c'est quoi ce couteau ?
Bah, c'est un couteau.
C'était Stéphane Desmoustiers, le réalisateur de La Fille au bracelet, dans les salles depuis le 12 février, tout comme Tu mourras à 20 ans. On va parler d'un jeune homme à qui la tradition religieuse promet une mort certaine, et nous sommes au Soudan.
Et maintenant ?
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Oui, nous sommes au Soudan, en effet, dans la province d'Al-Jazira. Même le poids des traditions y est lourd, la religion est omniprésente et elle conditionne les vies des habitants. Lorsque Mouzamil naît, le chef religieux de son village lui prédit un funeste destin. Il mourra à 20 ans. Son père, atterré par la nouvelle, fuit le village et part voyager de pays en pays, laissant Sakina, sa femme, prendre soin de leur enfant toute seule. Mouzamil grandit pour échapper à la malédiction qui conditionne son existence et qui fait de lui un paria. Il se consacre entièrement à la religion, travaillant sans relâche à la mosquée de son village pour apprendre le Coran. À 19 ans, il tombe amoureux d'une jeune fille de son âge, mais persuadé qu'il vit ses derniers instants, il rejette cet amour naissant en attendant la mort.
أنا ما عندي بكرة حابس روحك معي ليه؟
Tu mourras à 20 ans est le premier long métrage de Amjad Abou Alala, un réalisateur soudanais qui a fait ses armes dans le documentaire, notamment sous la direction de Abbas Kiarostami. Le film est sans doute alors un peu trop long, hein, par rapport à son scénario finalement assez ténu. C'est un film qui prend son temps, qui suit son personnage principal de très près, un personnage dont le destin confère au film des allures de tragédie. Une tragédie solaire tournée sur les bords du Nil, dans la lumière du désert. Ce qui frappe dans ce long métrage, c'est le grand soin justement apporté à cette lumière. Beaucoup de contre-jours, de lumière rasante, tombante. Le soin apporté au cadrage également, à la forme d'une façon générale. Hein. Beaucoup de plans restent en mémoire longtemps après la vision du film. La séquence d'ouverture, entre autres, est d'une beauté assez fulgurante. Vous l'aurez compris, c'est un film à découvrir sur grand écran. Je le déconseille sur téléphone. Voilà.
Oui, c'est sûr.
Non, un premier film, encore une fois, un petit peu trop long, mais vraiment extrêmement beau.
Alors, moi, je l'ai vu aussi. Alors, j'ai trouvé que le scénario était finalement très, très attendu. Bon, il est toujours question de cette tradition pesante, effectivement. Mais il y a un personnage, notamment le personnage déviant qui revient au village, qui fait découvrir tout un tas de choses à notre personnage.
Oui, et le
qui
forcément... cinéma, notamment.
Voilà. Bon, c'est très artificiel, je trouvais, comme type de scénario. Mais effectivement, tu as raison, c'est formellement, enfin, plutôt réussi. Et puis, on ne quitte jamais ce personnage, finalement, qui devient très attachant, parce qu'on se demande, est-ce qu'il va vraiment
mourir ?
Donc, Tu mourras à 20 ans de Amjad Abou Alala. On ne se lassera jamais de donner ce nom. C'est en salle depuis le 12 février. Et là, en revanche, on va faire un grand écart, puisqu'on va retourner dans le passé. C'est un peu le patrimoine, finalement, cinématographique. Ernst Lubitsch avec La folle ingénue, film de 1947.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Le plombier est devenu, bien malgré lui, une figure récurrente du cinéma X et encore plus des parodies qui pastichent l'univers des films porno. Vous vous demandez pourquoi je parle de ça.
Pour parler
mais
de Lubitsch.
Mais pourquoi le plombier et pas l'électricien ou le facteur ? Quoique ça se discute, hein. C'est sûrement une affaire de tuyauterie. Ou alors, le premier cinéaste coquin ayant usé de cette situation scabreuse n'était rien d'autre qu'un cinéphile qui avait pour film de chevet La folle ingénue. Et oui, le film débute par un problème de taille, un évier bouché durant l'hiver 38, évinçant temporairement la grande histoire, celle de l'arrivée du nazisme. Andrew Carmel attend un plombier qui n'en finit pas de venir. Premier quiproquo, il prend le séduisant Adam Belinsky, philosophe roublard fuyant le nazisme, pour le sauveur de son pauvre évier qui déborde. Mais c'est la nièce du plombier, tant attendue, qui se présente à sa place, la ravissante Clooney Brand qui n'a qu'un vice. Elle adore la plomberie qui la plonge dans l'extase la plus totale. Dès qu'elle s'empare des outils, qu'elle tape sur les tuyaux, elle devient excitée comme une puce. Et en plus, elle est douée. Une fois le travail fini, on la voit s'allonger, le sourire éclatant, dans une position lascive. Plus explicite, on ne peut pas faire. Ernst Lubitsch contourne la censure et célèbre à sa manière le plaisir féminin. Il fallait quand même oser, juste après la guerre en plus. C'est certainement la période la plus puritaine du cinéma américain en plus, à partir de 45.
Et puis là, on voit très bien comment finalement on peut l'adapter en film, film pornographique. Oui.
Bon, je pense qu'il y a pensé à tout le potentiel érotique. Hein. Mais alors, qui est Clooney Brown, hein, qui se trouve être le titre original du film, hein. Une jeune femme pétillante et naïve qui va se faire engager comme domestique chez Lord et Lady Carmel, propriétaire d'un beau manoir à la campagne, sorte de Pierre Richard avant l'heure. Elle enchaîne maladresse sur maladresse, n'étant finalement douée qu'avec ses outils. Elle a aussi du mal à supporter le majordome et la gouvernante, aliénée par leurs fonctions. Hein. L'arrivée d'Adam Belinsky, rencontré précédemment par le fruit du hasard, va bouleverser sa vie, alors qu'elle accepte de sortir avec le pharmacien local, homme maniéré et insupportable, empêtré par ses bonnes manières et sa condition de petit bourgeois. Alors d'autres sous-intrigues se greffent à cette comédie brillante et enlevée d'un modernisme stupéfiant par un Lubitsch pourtant malade pendant le tournage. On le voit bien dès ce prologue, le Viennois règle ses comptes avec les bourgeois, les aristocrates, mais aussi les prolétaires qui acceptent la soumission avec fierté. À travers Cluny, il célèbre les esprits libres et iconoclastes capables des pires folies. Alors rien de nouveau chez l'auteur de Sérénade à Troyes, autre histoire scabreuse vantant l'union libre en 1933, qui livre une fois de plus un grand film féministe et libertaire qui ne ressemble pas du tout à un film testamentaire. Dernière œuvre qu'il réalise dans sa totalité puisqu'il décédera en 47 sur le tournage de La femme au manteau d'Hermine, terminé par un autre grand réalisateur, Otto Preminger. Alors Cluny Brown est incarné alors génialement par Jennifer Jones, actrice sublime dont on pouvait deviner le potentiel comique. Malgré son contrat d'exclusivité avec son mari producteur David O. Selznick, l'actrice a pu se dégager et tourner pour la Fox, ce classique de la comédie américaine. Alors le potentiel érotique et affolant pour l'époque ultra-puritaine atteint des sommets lorsque Cluny, éméché, se met à pousser des miaulements de plaisir, telle une chatte enivrée. Alors évidemment, le film ne vaut pas que pour la présence de Jennifer Jones, Pourtant, même auprès de ses fans absolus, Cluny Brown peut parfois apparaître moins éclatant et rigoureux que certains titres de Lubitsch. La progression dramatique stagne, les quiproquos sont finalement assez rares et l'émotion ne déborde pas du cadre comme dans Rendez-vous, par exemple. Mais en revanche, les dialogues brillent par leur folie non sensique, digne des Marx Brothers ou des meilleurs Woody Allen. Je pense surtout aux premiers, ceux des années 70. Voilà. Ils sont au service d'une œuvre sarcastique et d'une virulence assez rare, le style moins énergique que d'habitude et nonchalant. Le réalisateur laisse les situations s'installer et avancer doucement jusqu'à saturation. La drôlerie vient en fait du décalage constant entre des personnages qui sont d'un sérieux absolu et des idioties qu'ils débitent. Avec une virulence et une élégance communicative, il épingle les classes sociales sans distinction, offrant au spectateur un cadeau magnifique, celui d'un pur film à nard et désenchanté, d'une drôlerie constante, un bras d'honneur à ceux qui voudraient nous enfermer dans des cases. À l'approche de la mort, le Viennois se lâche derrière la sophistication de la mise en scène, la truculence des situations et le charme infini de Jennifer Jones, bien loin de ses rôles mélos. Et ça fait un bien fou, à une époque où quand même 99% des comédies sont quand même relativement sinistres et surtout, je trouve, moches et mal réalisées. Voilà, je voulais le dire ça, parce que c'est quand même assez frappant. Alors, bonheur supplémentaire, le film ressort dans une restauration sublime. Pour ceux qui veulent aller plus loin, procurez-vous le DVD sorti il y a quelques années chez Carlotta et visionnez l'un des bonus qui est écrit par Jean Douché, qui vient d'ailleurs de nous quitter il n'y a pas très longtemps, ce qui s'appelle L'Art du plaisir, analyse épatante des séquences les plus mémorables du film.
Et donc, à noter qu'il y a quand même pas mal de cinémas qui vont reprendre ce Lubitsch. Donc, il faut être vigilant parce que... Parce que finalement, il a peut-être plus de chances d'être projeté que Mickaël de Beer, dont tu as parlé en début d'émission, non ?
Il y a des chances. Voilà. Et puis surtout, c'est que pour les salles à réessai, les films de patrimoine comme ça fonctionnent très très bien. On a peu d'occasions, alors à moins, ça passe parfois sur des chaînes payantes, mais on n'a pas tant l'occasion que ça de voir ces films-là, surtout sur grand écran. Hormis évidemment des rétrospectives, mais c'est souvent à la Cinémathèque à Paris. Donc, faut profiter de ces séances-là et puis de voir des grandes comédies en salle, ça n'a pas de prix.
Merci beaucoup, Manu, de faire des retours quasiment constants dans ces films de patrimoine. Et d'ailleurs, tu pourrais faire un spécial Lubitsch, parce qu'il n'en a pas fait tant que ça de films.
Oh, si, il y en a beaucoup. En fait,
je pensais qu'il y en avait moins d'une dizaine,
il y a sa période américaine à partir. Il arrive aux États-Unis au début des années 30, et il en a réalisé de 30 à 47. Il a dû réaliser 15-20 films, mais surtout, comme c'est un cinéaste qui est autrichien à la base, il a réalisé une vingtaine, trentaine de films muets.
Auparavant. Ah oui. D'accord.
Comme beaucoup d'ailleurs de réalisateurs exilés, c'est la même chose pour Preminger, c'est la même chose pour Billy Wilder, qui ont commencé en fait leur carrière en Europe et qui ont effectivement se sont installés aux États-Unis comme 50%, je dirais, des grands cinéastes américains qui ne sont pas américains en fait.
La folle ingénue donc de Ernst Lubitsch, film de 1947, à nouveau dans les salles et c'est tant mieux.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, on entendra le réalisateur Filippo Meneghetti du film 2, et puis on aura l'occasion de jouer à un top des films de 2019.
Et moi, pour ma part, je vous parlerai du nouveau Clint Eastwood, le cas Richard Jewell.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.